Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Graphite 94.9 ou sur graphite.net. Je suis Quentin Duchemin et je suis cet après-midi en direct en studio avec Marielle, Emma, Noah, Loïc et Mathis. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et on se retrouve les trois premiers mercredis donc de décembre entre 14h30 et 18h30 pour des émissions autour du cours WE01 de l'UTC, écrire sur le web. Les étudiantes et étudiants viennent y présenter le résultat de leur recherche du semestre qui s'est articulé autour de questions sociotechniques portant sur le web. Alors en WE01, on parle de pas mal de choses, on parle de l'histoire du web, on parle de comment est-ce que celui-ci est devenu un peu sous l'emprise du capitalisme de surveillance et on explore des alternatives avec les logiciels libres et les visions plus décentralisées du web. Mais on apprend aussi à lire dans la littérature scientifique, à l'analyser et puis à écrire sur le mode des articles scientifiques. On fait d'autres choses, tout ça peut être retrouvé en licence libre sur librecours.net. On passe donc au sujet de cette émission. Cette émission donc porte sur la matérialité du numérique. C'est le sujet sur lequel vous avez travaillé tous les cinq pendant le semestre. Donc qu'est-ce qui se passe derrière le cloud ? Quelle piste pour faire autrement ? Je ne vais pas en dire plus et je laisse Noah lancer l'émission.
Le numérique est aujourd'hui largement implémenté dans notre société. Chaque jour, des milliards d'individus utilisent des appareils électroniques, naviguent sur Internet et sont en contact avec des infrastructures numériques. Bien que l'expansion du numérique a considérablement changé le fonctionnement de notre société contemporaine, de nombreux enjeux se cachent derrière et sont méconnus par une grande partie du public. Des enjeux environnementaux aux tensions géopolitiques, nous nous proposons de couvrir les coulisses du numérique, d'en décoder les enjeux et d'introduire les solutions durables envisagées afin d'en résoudre les problèmes. Emma va nous parler des smart cities et du cloud, des infrastructures numériques et des enjeux environnementaux et éthiques qui l'entourent.
Une grande partie de notre vie numérique transite désormais par le cloud. On sauvegarde nos documents, on partage des images, on regarde des séries, on écoute de la musique. Toutes ces actions de nos quotidiens se font via le cloud. Mais qu'est-ce que le cloud ? Ce mot est de plus en plus utilisé par l'industrie et les pouvoirs publics, alors même que sa définition n'est pas connue de tous. Ce mot évoque l'idée d'un numérique virtuel, immatériel, dispersé au-dessus de nos têtes. Pourtant, le cloud est un réseau de data centers interconnectés qui gère le flux de données générées par nos activités en ligne. Ces data centers sont bien matériels, puisque ce sont des centres de stockage et de traitement des données constitués d'une multitude de serveurs. Ils sont capables de s'échanger rapidement des données de manière sécurisée afin de les amener vers leur destination finale. Ces serveurs sont les nœuds centraux avec lesquels tout utilisateur d'Internet interagit, qu'il s'agisse de services de messagerie, de streaming ou encore de stockage en ligne. Cependant, la majorité des data centers sont implémentés dans les pays du Nord. Cette implantation des data centers, combinée au manque d'infrastructures réseau dans plusieurs pays du Sud, crée des inégalités d'accès au numérique. En effet, les pays du Sud peuvent utiliser des services hébergés dans des pays du Nord seulement s'ils ont le réseau nécessaire pour se connecter à ces services, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays qui n'ont pas accès au réseau mobile. Certaines régions du Sud sont ainsi laissées à la traîne dans le développement du numérique en raison de leur manque d'infrastructures réseau. Le flux de données généré par le cloud est acheminé jusqu'au data center via des câbles sous-marins, des réseaux de fibre optique et aussi via le réseau 4G et 5G. Les données générées par le cloud ne transitent pas par les airs comme le suggère le nom. En effet, environ 99% transitent via des câbles sous-marins et des réseaux de fibres optiques enfouis sous terre. Lorsqu'une donnée telle qu'une notification est envoyée, elle passe d'abord par l'antenne d'un opérateur mobile ou une box internet, puis elle emprunte les réseaux de fibres optiques avant de rejoindre les centres techniques des opérateurs. Pour finir, ces données traversent les mers et les océans grâce aux câbles transocéaniques qui sont essentiels pour relier les continents et assurer la transmission rapide des données. Ces différents types de câbles permettent aux flux de données de se déplacer et sont essentielles au bon fonctionnement du cloud et d'Internet en général. Le développement des smart cities et de l'Internet, IoT, amplifie la dépendance de notre société à Internet, mais aussi les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, dans lesquels les infrastructures du numérique sont moins développées. Les smart cities sont des villes qui intègrent des technologies du numérique pour optimiser leur fonctionnement et leur gestion. Par exemple, les smart cities emploient des capteurs qui surveillent le trafic pour réguler la circulation. Ou encore des systèmes connectés qui permettent une collecte optimisée des déchets et des caméras intelligentes qui assurent la sécurité publique. Ces dernières jouent un rôle central dans la Technopolis, qui est un dispositif important au sein des smart cities. L'Internet des objets est au cœur des smart cities. Il désigne un réseau d'objets connectés à Internet qui peuvent collecter, échanger et recevoir des données en temps réel. Ces objets peuvent être des appareils du quotidien, comme des réfrigérateurs intelligents, des montres connectées ou des voitures qui utilisent Internet pour fonctionner de manière intelligente. Un exemple concret est celui des thermostats connectés qui permettent de réguler la température des bâtiments en fonction des données de température extérieure collectées. Le développement de ces technologies nécessite le déploiement de la 5G, car la 3G et la 4G ne sont pas capables de gérer un flux aussi important de données provenant d'autant d'appareils différents. L'IoT, tout comme les smart cities, repose sur le réseau 5G. Il y a donc une interdépendance entre les smart cities, les réseaux mobiles et les infrastructures de calcul et de stockage qui sont gourmandes en énergie. Pour mieux comprendre le fonctionnement d'Internet et ses différents impacts, je vous invite à lire « L'enfer du numérique, voyage au bout d'un like » de Guillaume Pitron, qui rassemble de nombreuses informations sur le sujet. Même si le développement du numérique a de nombreux avantages, il n'est pas sans conséquences. En effet, ces technologies entraînent une consommation massive d'énergie pour faire fonctionner ces différentes infrastructures, comme l'explique Guillaume Pitron dans son livre et dans cette interview.
Que les ministres de l'Europe se sont réunis hier pour tenter de répondre à cette crise. Et puis la COP26 qui ouvrira lundi prochain, lorsqu'elle tente de résoudre la question du réchauffement climatique, elle doit aussi se pencher là-dessus, parce qu'en fait, tout cela aboutit à une fantastique gabegie d'électricité.
Absolument, il y a une fantastique, comme vous le dites, gabegie d'électricité. Alors, combien consomment les centres de données On pense que c'est environ 2% de la consommation électrique mondiale. Le numérique en général, c'est 10% de la consommation d'électricité mondiale. C'est un chiffre qui est en hausse.
10%.
C'est un chiffre qui est en hausse parce que c'est même, c'est normal, nos vies deviennent de plus en plus numérisées. Le Covid-19 a accéléré cela. Aller sur Zoom pour parler à un ami ou faire des apéros sur WhatsApp, évidemment que ça a un coût électrique. Donc on conjecture, certaines études conjecturent, qu'on va doubler ce chiffre à l'horizon 2025.
La production des composants électroniques nécessite l'extraction de métaux dits rares, comme le cuivre ou encore le gallium. Ces métaux sont indispensables aux composants électroniques à la base de l'ensemble des infrastructures numériques. Au nombre de 17, ce n'est pas tant leur rareté dans le sol qui est en jeu, mais la pression géopolitique sur leurs réserves, ainsi que les difficultés croissantes à les extraire et à les séparer. D'autres métaux essentiels à la production des composants électroniques ne sont pas rares, mais posent des problèmes lors de leur extraction. C'est le cas du coltan et du cobalt, qui sont au cœur de conflits armés en République démocratique du Congo. Au global, les métaux en jeu sont souvent extraits dans les pays du Sud, puis exploités par les pays du Nord pour produire les composants électroniques. Finalement, le développement du numérique soulève des questions concernant l'impact environnemental du numérique, concernant l'utilisation massive des minerais rares, mais aussi concernant les problèmes géopolitiques liés à la croissance du numérique. Le développement du numérique bénéficie aux pays du Nord qui extraient les métaux dans les pays du Sud sans se soucier des conséquences que ça a sur les droits des populations et sur l'environnement au sein de ces pays. Marielle va maintenant vous parler de l'extractivisme lié à la croissance du numérique.
La création d'appareils numériques nécessite de nombreux métaux rares dispersés sur de multiples zones géographiques mondiales. Ces métaux sont catégorisés comme rares de par leur difficulté d'extraction, de leur production limitée et de leur demande croissante à travers le monde. Comme l'ont déclaré Shengen Zhang et ses collègues dans un article, ces dernières années et plus précisément au début du XXIe siècle, le développement numérique et la création d'appareils électroniques n'a cessé d'augmenter, entraînant par conséquent une demande toujours plus importante en métaux rares. C'est ainsi qu'est né l'extractivisme, un modèle économique basé sur l'exploitation intensive et l'extraction de ressources naturelles, dans notre cas les métaux rares, à grande échelle, généralement pour l'exportation. Une démarche réalisée dans un but lucratif, mais au détriment de l'environnement et des droits de communauté, sans compter les tensions géopolitiques et économiques qui en naissent. Économiquement parlant, ces mines permettent de faire des profits et de faire prospérer des villes et des États. Mais cela n'est pas sans conséquence, comme par exemple en Afrique du Nord, comme l'explique Hamza Amouchen dans son article nommé « Lutte socio-environnementale contre l'extractivisme en Afrique du Nord », où les ressources telles que l'eau sont pillées et l'environnement dégradé, ce qui pousse les victimes, comme les travailleurs, et plus globalement les communautés locales à se soulever et à se révolter. Par exemple, des soulèvements dans le sud de l'Algérie ont été recensés. De même, sur l'archipel de Kerkéna en Tunisie, en mars 2016, un conflit socio-écologique a éclaté entre les pêcheurs et la compagnie pétrolière Tina Petroleum Service, suite à un énorme déversement de pétrole ayant décimé les populations de poissons, menaçant à la fois la biodiversité marine et les moyens de subsistance de la population. De plus, la tentative de la compagnie de sous-estimer et de couvrir l'impact du déversement a davantage accentué les tensions émergentes. Un autre exemple est celui de la guerre au Congo. En effet, plus de 50% de la production mondiale de cobalt, un métal rare utilisé dans la fabrication de réacteurs nucléaires, de moteurs d'avions, de missiles et d'appareils de haute précision, est extraite au Congo. L'extraction de ce métal a engendré une compétition d'influence entre les grandes puissances régionales, qui est l'une des causes de cette guerre. Ce conflit, qui dure depuis 1998, a obligé des millions de personnes à fuir leur foyer et causé environ 6 millions de morts, entraînant une crise humanitaire caractérisée par l'insécurité alimentaire, la malnutrition et le manque d'accès aux services de base tels que les soins de santé et l'éducation. De plus, d'un point de vue économique, le conflit a perturbé les activités agricoles et les routes commerciales, exacerbant la pauvreté et entravant les efforts de développement dans la région. L'extraction de métaux rares a aussi des conséquences sur l'environnement, comme ça a été le cas en Tunisie, précédemment. L'extractivisme s'accompagne en effet de dégâts souvent irréversibles sur les milieux d'extraction, comme la dégradation des sols, la déforestation, la pollution, la perte de biodiversité, etc. C'est le cas dans la ville chinoise de Baotou, où la pollution environnementale causée par l'extraction de métaux rares a forcé les habitants de la ville à ne cultiver que des aliments basiques comme du blé et du maïs. De plus, les gaz dégagés lors de l'extraction et du traitement peuvent intoxiquer les habitants vivant proche des sites. De manière plus globale, les dégâts environnementaux causés par l'extraction des matériaux ont aussi de l'effet sur les populations locales, ce qui a pour conséquence l'émergence de tensions sociales. Par exemple, les zones où les mines s'implotent sont parfois sur des zones habitées ou des zones précieuses pour les locaux. Il y a donc une dépossession des communautés locales privées du contrôle des ressources de leur espace de vie au profit d'acteurs généralement étrangers. Voici maintenant un extrait d'un reportage sur TF1 appelé « Les forçats du cobalt plongés dans l'enfer des mines en République démocratique du Congo ». Cet extrait parle des conditions des mineurs dans une mine de cobalt.
50 mètres de vide, l'équivalent de 18 étages. Nous ne pouvons pas y aller, la loi l'interdit aux étrangers. Olivier, mineur expérimenté, emmène notre caméra dans une descente à la force des bras, sans être attaché. Glisser ici, c'est la mort assurée. Après quelques minutes d'efforts, Olivier filme la paroi et commente.
Là, ça c'est déjà du cobalt. À partir de ce niveau.
30 mètres de fond. Mais les mineurs creusent toujours plus bas pour trouver du minerai de meilleure qualité.
C'est ma vie. On le vole, vous êtes pressé. Ok. Tout ce que vous voyez sont les exploitants artisanaux. C'est ici où les parcours commencent.
Dans ces trous étroits, sans lumière, sans air de l'extérieur. Les creuseurs, c'est leur nom au Congo, passent 8 heures par jour à ramper dans cet enfer, dont les murs valent 30 000 euros la tonne.
Ça va ?
Chaque année dans ces mines, il y a des dizaines de morts, asphyxiés, écrasés. Payés 150 euros par mois, le double du minimum légal congolais.
Heureusement, selon Guillaume Pitron, en plus de la prise de conscience accrue des impacts environnementaux et sociaux de l'extraction minière, de nouveaux labels avec des certifications voient le jour pour encadrer et améliorer les pratiques dans le secteur de l'extractivisme. Ils se concentrent principalement sur trois domaines clés, la réduction de l'empreinte écologique, le respect des droits humains et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières. Ces initiatives répondent à la demande croissante de pratiques plus éthiques et durables dans l'industrie extractive, particulièrement pour les matériaux critiques comme le lithium, le cobalt, l'indium et les terres rares. Par exemple, l'organisation suisse TCO Development devrait progressivement étendre ses certifications pour inclure des critères sur la pollution générée par la fabrication de produits électroniques. Ainsi, cela devrait porter sur la limitation de l'utilisation de certains métaux lourds, l'interdiction de minerais de conflit et le respect des conditions de travail dans les chaînes de production. Cependant, en l'absence de résultats concrets, il est difficile de savoir si ces mesures sont respectées ou suffisantes à l'avenir. Noah va maintenant vous parler de la géopolitique autour du numérique.
Comme dit précédemment par Marielle, la création d'appareils et d'infrastructures numériques nécessite de nombreux matériaux différents, et notamment des métaux rares. Or, avec l'accroissement du coût et l'épuisement de certaines ressources, on constate une escalade internationale des tensions et des conflits pour l'obtention de ces minerais et de ces matériaux. Une autre source de tension sont les conditions dans lesquelles peuvent travailler les individus dans les mines d'extraction des métaux rares. Peu importe les régions minières, les droits humains et l'environnement subissent des atteintes. De ce fait, les gouvernements locaux essayent de mettre en place des solutions plus ou moins efficaces. Avant d'entrer dans le sujet des tensions géopolitiques, il est important d'éclaircir nos auditeurs sur la localisation des principales zones de production et d'extraction des métaux rares. Aujourd'hui, on distingue trois zones distinctes possédant un monopole sur l'approvisionnement mondial en métaux rares nécessaires à la production de matériel électronique et informatique. Cependant, il existe certaines différences entre ces zones de production, que ce soit au niveau du type de ressources extraites qu'au niveau des méthodes de contrôle entourant ces ressources. On distingue tout d'abord l'Afrique, continent possédant de nombreuses réserves en métaux rares, notamment en cobalt. C'est le cas par exemple de la République démocratique du Congo, qui est considérée, selon l'USGS, United States Geological Survey, comme le plus grand fournisseur de cobalt au monde. Ce métal rare est notamment utilisé pour la création de nombreuses batteries d'appareils électroniques. La seconde grande zone d'extraction des métaux rares n'est autre que l'Amérique du Sud. La Bolivie, l'Argentine et le Chili forment, selon le CNRS, une zone géographique nommée le triangle du lithium, où est extrait 70% du lithium mondial. Le lithium est aussi un composant essentiel pour la fabrication de piles et de batteries électriques. Enfin, l'Asie, et plus précisément la Chine, pourrait devenir, toujours selon l'USGS, le producteur principal de matériaux rares, et ce grâce aux très nombreuses zones d'extraction et industries de transformation des métaux rares se trouvant sur le territoire chinois. Bien que ces trois zones produisent des terres rares en grande quantité, la Chine détient le plus grand capital sur cette industrie. La Chine ne génère pas seulement l'extraction des terres rares, mais aussi le raffinage et la transformation des produits extraits. De plus, les deux autres zones principales de production sont en grande partie contrôlées par des acteurs privés internationaux, dont la majorité sont d'origine chinoise, selon l'IFRI. Ainsi, la Chine sécurise l'accès aux ressources nécessaires à la création de matériel électronique, ce qui est source de conflits géopolitiques et économiques à l'échelle internationale. Un court extrait d'un mini-documentaire du Monde nous en explique davantage.
Étant indispensables aux nouvelles technologies, les terres rares vont continuer à être de plus en plus utilisées, au point de devenir un enjeu géopolitique. Aujourd'hui, la Chine produit près de 80% des terres rares. Ce qui lui a permis de s'imposer sur le marché, ce sont des gisements particulièrement concentrés et des politiques environnementales inexistantes dans les années 90.
Et la Chine s'est déjà servie de cet argument de poids comme arme diplomatique.
En septembre dernier, un incident en mer de Chine entre un bateau de pêche chinois et un patrouilleur japonais dégénère en crise entre les deux pays. Bizarrement, le robinet de terres rares, vital pour le Japon, est coupé.
Ce qui n'a pas laissé la communauté internationale indifférente.
We're bringing a new trade case against China, and we're being joined by Japan and some of our European allies. This case involves something called rare earth materials.
Pour ne plus être dépendant de la production chinoise, les États-Unis ont rouvert en 2018 leur propre mine de terres rares. Et plusieurs autres pays explorent eux aussi la possibilité d'ouvrir d'autres mines. Reste à savoir dans quelles conditions les terres rares de ces nouvelles mines seront extraites.
Nous avons certes abordé les tensions qui existent à l'échelle internationale, mais qu'en est-il à une échelle plus locale ? En d'autres termes, quels sont les impacts de l'extraction des métaux rares sur les travailleurs et sur les populations avoisinant les sites d'extraction ? Voici ce que nous avons appris d'après un rapport mené par Shengen Tsang, professeur chinois à l'Université des sciences et des technologies à Beijing. En fonction des métaux extraits et des régions concernées, les conditions de travail dans les mines varient considérablement. L'extractivisme bouleverse la vie des populations locales et entraîne de graves conséquences sur leur santé. En Afrique, et plus particulièrement en République du Congo, les miniers travaillent dans des conditions non conformes au droit international. Les ouvriers, parfois enfants, sont soumis à de longues heures de travail dans des conditions précaires et dangereuses. Les tenues de travail sont inappropriées aux risques encourus. Les miniers sont exposés à des particules des poussières et travaillent dans des postures inconfortables pendant de longues périodes. Tout cela engendre des problèmes de santé, comme des troubles musculo-squelettiques, des troubles respiratoires, ainsi que des fatigues anormales. En Amérique du Sud, les conditions d'exploitation sont plus respectueuses envers les travailleurs qu'en RDC, notamment en raison de réglementations plus strictes et d'une moindre dépendance au travail informel. Cependant, un autre problème d'ordre social se pose. Les populations locales se voient confrontées à des expropriations et à des déplacements forcés dus à l'expansion des mines de lithium. Face à ces problématiques, les gouvernements locaux, accompagnés d'organisations externes internationales, essayent d'introduire des mesures qui réglementeraient le secteur de l'exploitation minière et qui permettraient d'améliorer les conditions de travail des multiples travailleurs. En Afrique, les gouvernements tentent de mettre des réglementations en place pour mieux réguler l'exploitation minière et la traçabilité des minerais. Pour illustrer mes propos, je prendrai une nouvelle fois l'exemple de la RDC. Selon Sarah Guinen et Raph Custers, les initiatives, en particulier à l'est du continent, se succèdent. Celles-ci sont appuyées par des organismes internationaux et ONG comme l'ONU ou Global Witness. Cependant, l'efficacité de leur stratégie est remise en question, notamment sur l'adaptabilité de celles-ci vis-à-vis du contexte local et historique du pays. Il en est ressorti un manque de solutions constructives, de propositions réalistes et acceptables pour tous les intervenants. De plus, d'autres facteurs tels que des pressions internationales, sensibilisation du public autour des origines sanglantes des minerais extraits, ou encore la corruption, influencent considérablement le secteur et favorisent l'exploitation des entreprises privées étrangères. Motivées par les bénéfices et le cours de leurs actions, celles-ci ne se préoccupent aucunement du bien-être des populations congolaises. En Amérique du Sud, les pays extracteurs de lithium prennent eux aussi des mesures pour mieux encadrer l'extraction minière. Par exemple, la Bolivie a nationalisé son industrie du lithium et a mis en place des mesures pour tenter de développer les industries locales de transformation. Ainsi, bien que certaines voix de la communauté internationale s'élèvent contre l'extractivisme par le biais des populations les plus pauvres, les pressions externes motivées par les bénéfices empêchent ce courant de faire humainement progresser ces pratiques. Maintenant, Loïc va nous en dire plus sur le recyclage du numérique.
Alors, on a pu explorer divers aspects du numérique d'aujourd'hui, cependant il est crucial de se pencher sur la fin de vie des équipements numériques, et plus particulièrement sur leur recyclage. Ce sujet a une importance majeure, car la majorité des objets numériques ne sont pas recyclés de manière adéquate. Selon Recyclage des déchets électroniques, tri et réutilisation de Nicolas Charpentier, en 2019, seulement 17,4% des déchets électroniques mondiaux ont été recyclés. C'est un chiffre alarmant face aux enjeux environnementaux croissants. Le problème s'aggrave et risque de s'aggraver avec l'augmentation du nombre d'équipements électroniques. Selon la même source, en 2019, on estimait la production mondiale de déchets électroniques à 53,6 millions de tonnes et la projection pour 2030 s'élève à 74,7 millions de tonnes. Ces chiffres illustrent une tendance préoccupante qui, si elle n'est pas inversée, pourrait engendrer des impacts environnementaux irréversibles. Mais qu'entendons-nous précisément par recyclage ? Ce terme, souvent utilisé, mérite qu'on le redéfinisse clairement. Selon Recyclage des déchets électroniques, tri et utilisation, le recyclage repose sur plusieurs étapes clés. Dans un premier temps, il faut collecter les matériaux usagés. Dans un deuxième, les traiter pour extraire un maximum de composants. Par la suite, il faut les trier en fonction de leur nature, que ce soit du plastique, du métal, des composants électroniques, etc. Enfin, les réutiliser pour fabriquer de nouveaux produits. Dans le cadre des DEE, ou D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, la collecte joue un rôle crucial. Actuellement, ces déchets peuvent être déposés dans des déchetteries municipales ou des points de collecte en magasin, mais laissons Consomag nous en parler.
Selon l'ADEME, un peu moins de 480 000 tonnes de D3E ont été collectées en 2013. Deux acteurs principaux de la collecte, les déchetteries et la distribution. Cette dernière est la moins performante alors que les points de collecte ont augmenté en magasin sous la forme, souvent, de meubles dédiés à la collecte.
Votre lave-linge ou votre fard repassé devient hors d'usage, il devient donc un D3E. Il doit donc faire l'objet d'une collecte séparée des autres déchets ménagers classiques. Le professionnel, que ce soit un magasin ou une enseigne de vente à distance, est tenu de vous informer sur les modalités de collecte. Il existe deux options. La première, c'est la reprise 1.1 qui concerne le gros électroménager. Le professionnel est tenu de récupérer gratuitement votre équipement usagé à la seule condition que vous lui rachetiez un équipement électrique ou électronique équivalent. La deuxième option, c'est la reprise 1.0 qui concerne le petit électroménager de moins de 25 cm. Autre possibilité, vous renseignez auprès de votre mairie sur les modalités de collecte des encombrants ou sur la possibilité de vous dessaisir de votre produit usagé dans une déchetterie.
En ce qui concerne le devenir de ces D3E, ils présentent un fort potentiel de recyclage des matériaux qui les composent. Métaux ferreux et non ferreux, métaux rares, verre, plastique. Une autre possibilité, donner une seconde vie à votre appareil. Il existe tout un panel d'acteurs du réemploi, de la réparation et de la réutilisation, comme les structures de l'économie sociale et solidaire.
Le cours extrait nous indique des manières de se débarrasser des D3E et aborde aussi le recyclage. Mais concentrons-nous sur ce qui se passe après la collecte. Après la collecte, selon Nicolas Charpentier, les déchets sont désassemblés pour en séparer les différents composants. Le désassemblage peut se faire mécaniquement, thermiquement ou encore chimiquement. Après cette étape, ce qui reste est trié de plein de manières différentes en fonction de ce que l'on veut récupérer. Ce qui est recherché est ce qui a de la valeur, comme par exemple l'or ou l'argent qui ont une valeur économique. Ce qui est aussi recherché, c'est ce qui peut être réutilisé. Tous ces procédés sont des procédés chers et difficiles à réaliser. Par exemple, il faut pouvoir être capable de gérer les substances toxiques comme le plomb, le mercure ou les retardateurs de flamme. Précédemment, j'ai parlé de la collecte des déchets, mais il faut savoir que certains finissent aussi dans la nature. Mais ce n'est pas tout. Selon Fabrice Flippot, dans la numérisation du monde, un désastre écologique, certains déchets sont exportés dans des pays en développement sans infrastructure adéquate. Les habitants vont, pour gagner de l'argent, essayer de récupérer les composants et les matières qui sont économiquement intéressantes. Cependant, cela va être fait avec des procédés et des conditions non adaptées, ce qui va entraîner de la pollution et des risques sanitaires. Après le recyclage, il va y avoir des restes. Ces restes sont d'autres déchets que l'on va appeler déchets résiduels. Nicolas Charpentier nous explique que cela peut être des scories, des cendres contenant des métaux en faible quantité ou encore des substances toxiques. Les technologies actuelles ne permettent pas de les récupérer de manière rentable. Ces résidus vont donc être généralement incinérés ou stabilisés pour réduire leur toxicité, stockés dans des décharges spécialisées conçues pour les confiner durablement. Malheureusement, de nombreux obstacles freinent l'efficacité du recyclage. Il y a un manque de connaissances sur le sujet, les consommateurs ignorent souvent où déposer leurs anciens appareils, tandis que certains produits sont délibérément conçus pour être difficiles à démonter et ou à recycler. C'est ce que nous indique Fabrice Flippot. De plus, le coût du recyclage reste élevé, ce qui incite certaines entreprises à privilégier l'extraction de nouveaux matériaux plutôt que la réutilisation d'anciens. Pour le futur, des scientifiques étudient des technologies innovantes comme par exemple la biohydrométallurgie qui utilise des micro-organismes pour dissoudre certains métaux. C'est ce que nous explique Nicolas Charpentier. Mais ce n'est pas le thème de ma partie.
Comme évoqué par Loïc précédemment, en 2019, la production mondiale d'équipements électriques et électroniques a atteint 53,6 millions de tonnes. Un chiffre qui, selon Nicolas Charpentier, docteur à l'Université de Paris-Saclay, pourrait évoluer à 74,7 millions de tonnes d'ici à 2030. Face à l'augmentation significative du nombre d'équipements électroniques et l'épuisement des ressources naturelles, le modèle actuel semble à long terme difficilement tenable. Dans ce contexte d'urgence, entre 2019 et 2020, l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, a mis au point des scénarios représentant des visions prospectives des trajectoires que pourrait emprunter l'humanité pour atteindre l'objectif zéro carbone en 2050. Les chemins envisagés sont volontairement contrastés des points de vue économiques, techniques et sociétals. Deux des scénarios tendent de façon plus ou moins extrême vers une société dite low-tech, tandis que les deux autres misent sur le techno-solutionniste dans une société high-tech. L'épuisement des ressources est un aspect central de ces prospections, qui permet d'évaluer la faisabilité des scénarios envisagés. Selon l'étude menée par l'ADEME, les prospections dites low-tech permettraient de fortement réduire la pression extractiviste engendrée par la production d'équipements électroniques, problématique que les autres scénarios envisagés ne semblent capables de résoudre. Je vais donc vous présenter la démarche low-tech, non parce que celle-ci serait la seule solution viable, mais parce qu'elle propose une réponse intéressante et disruptive par rapport à notre modèle actuel. Le concept low-tech s'inscrit dans un courant critique du techno-solutionnisme qui régit notre système et qui régit notre système, explique Stéphane Croza, enseignant-chercheur à l'Université technologique de Compiègne. Il correspond à un large mouvement impliquant une profonde réflexion sur nos besoins réels et notre façon d'y répondre. Il s'agit de se réapproprier collectivement la question des besoins, se demander ensemble ce qui est réellement utile ou pas, détaille Quentin Mathéus, ingénieur et directeur des enquêtes du Low-Tech Lab. Pour introduire la démarche low-tech, je vous propose d'écouter un extrait d'une vidéo réalisée par l'ADEME qui explique le raisonnement guidant chaque étape derrière ce concept.
Avant toute chose, il s'agit d'une démarche, car rien n'est low-tech dans l'absolu. On peut néanmoins comparer deux objets ou services et déterminer ce qui est plus low-tech. Par exemple, pour se déplacer, on considérera qu'un vélo est davantage low-tech qu'une voiture, mais moins low-tech que la marche à pied, car ce dernier reste un système complexe composé de multiples matériaux. Cette démarche, elle se fait en trois étapes. D'abord, l'étude du besoin. Ce produit ou ce service répond-il à un besoin essentiel, par exemple se nourrir, se loger, se chauffer ou se déplacer? Il s'agit également de choisir le juste niveau technologique, la high-tech n'étant pas toujours adaptée. Deuxième étape, la durabilité. Le bien ou le service doit avoir le moins d'impact environnementaux et durer le plus longtemps possible. Pour ça, on préférera des matériaux locaux, issus du réemploi ou biosourcés, et une faible consommation d'énergie et de ressources. On aura une attention particulière à la pérennité de la technologie low-tech, c'est-à-dire sa durée de vie, sa réparation et son recyclage. Enfin, la démarche low-tech se doit d'être accessible et simple. Simple pour que l'on puisse comprendre comment elle fonctionne afin de pouvoir plus facilement réparer ou fabriquer. Accessible financièrement mais aussi intellectuellement, en favorisant au maximum un accès libre aux informations de conception du produit ou du service.
Comme expliqué dans ce court extrait, le low-tech vise donc à privilégier des équipements durables, pensés et optimisés pour leur faible impact environnemental. Mais ce modèle ne se limite pas qu'au changement des équipements. Le low-tech a une dimension sociale, politique et économique, approfondit Quentin Mathéus. Tout d'abord, au niveau social, le principe d'accessibilité des équipements implique un travail collectif, participatif de réflexion, de décision et de formation. Concrètement, cette démarche se doit d'être suivie d'un processus d'entraide et d'apprentissage pour permettre à chacun de devenir capable de réparer et d'adapter une technologie en fonction de ses besoins. De plus, dans une revue de l'Institut Polytechnique de Paris, rédigée par Martina Knop, physicienne du CNRS, et Quentin Mathéus, il est décrit l'inévitabilité d'imaginer de nouveaux modèles de consommation, de production et de gouvernance. Cette revue s'appuie sur une note signée par de nombreux acteurs du mouvement, publiée en 2019 par La Fabrique écologique, qui stipule « Cette démarche n'est pas seulement technologique, mais aussi systémique. Elle vise à remettre en cause les modèles économiques, organisationnels, sociaux et culturels. » La transition vers le low-tech nécessiterait de repenser notre industrie en se concentrant sur les besoins essentiels, tout en optimisant ainsi le recyclage et en favorisant la relocalisation. Cela permettrait de développer une production à la fois responsable et durable. Pour mettre en place une telle économie, Philippe Bioui, spécialiste dans le domaine des ressources minérales, soutient le besoin de réorienter le savoir et les recherches vers l'économie des ressources, le démantèlement des techniques qui ne sont plus viables et la composition d'organisations socio-techniques appropriées.
Eh bien, merci beaucoup à vous cinq. On va ouvrir le temps des questions. Emma, Jordan demandait si il y a déjà des smart cities en France.
Alors, en France, la majeure smart city, c'est Lyon. Parce qu'à Lyon, l'éclairage public, la gestion des déchets commencent à être de plus en plus optimisés par des systèmes informatiques. Mais sinon, je crois que Noah pouvait compléter ma réponse.
On a certaines entreprises qui développent certains systèmes de smart cities, notamment Thales. J'avais eu la chance de visiter leurs locaux à Gennevilliers il y a un mois de ça à peu près, et ils nous ont présenté ce qu'ils appellent, si je ne me trompe pas, la Smart Digital Platform, où en fait ils démontraient comment une intervention de police pouvait être facilitée justement par l'utilisation de caméras au sein de Paris. Donc c'est encore en cours de développement, mais c'est quelque chose qui cherche à être implémenté par des sociétés françaises.
Oui, comme on l'a vu en cours, Thales, c'est un acteur vraiment majeur impliqué dans les dispositifs de surveillance un peu partout, notamment en France. Ok, merci. Alors, il y a Marielle. Je voulais savoir, est-ce que tu sais s'il existe des mines en France pour les différents métaux dont tu as parlé? Tu as parlé du cobalt et du coltan. Mettons qu'on veuille à minima faire les choses localement pour éviter d'avoir cette posture un peu consommatrice de pays qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que ce serait possible?
Alors, en France, il y a quelques sites. Alors, c'est pas, il y aura pas du cobalt ou du coltan. Par exemple, en Bretagne, il y a des gisements de terres rares, mais ils sont trop modestes pour justifier l'ouverture d'une mine. Et de même, dans la commune des Chassières, c'est à la frontière du département voisin du Puy-de-Dôme, y a un projet de mine de lithium qui est en cours. Voilà. Mais pas vraiment pour le coltan ou le cobalt.
Ok, merci beaucoup. Noah, il y a Jordan qui posait une deuxième question, qui demandait c'était quoi les principaux pays, états ou organisations qui étaient opposés dans les conflits autour de l'extractivisme au niveau mondial.
Alors déjà, juste pour rappel, donc les principaux états qui sont en conflit, en tout cas qui amènent des tensions géopolitiques, donc on a notamment les États-Unis et l'Europe qui s'opposent en fait au monopole que détient la Chine. Et pour répondre aux organisations plus de type ONG, donc j'avais déjà mentionné deux, l'ONU et j'ai oublié le nom de la deuxième malheureusement, mais non, après j'ai pas vraiment d'autres noms, mais en tout cas ces deux organisations sont les principales qui s'opposent majoritairement à l'extractivisme.
Merci beaucoup. Moi, je me demandais aussi, Noah, Marielle, elle mentionnait qu'il y avait des pistes, la réduction de l'empreinte écologique, le respect des droits humains, la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que, toi, en ayant étudié les conflits et le non-respect des droits humains, tu penses que c'est possible de conserver à la fois le volume d'extraction tout en ayant ces conditions-là qui sont réunies?
Bah, donc en fait, ça peut passer en fait par un accord commun avec tout le monde, c'est-à-dire une sorte de bonne relation, un terrain d'entente qui peut être trouvé entre les organisations qui cherchent justement à limiter tous les travers de l'extractivisme et les États qui veulent tout de même faire marcher leur économie. Et du coup, on rejoint un débat plus global, c'est-à-dire essayer de trouver un consensus entre une production plus écologique et aussi plus respectueuse des droits humains, tout en maintenant une productivité pour que les États justement maintiennent leur économie, parce que malheureusement on ne peut pas faire complètement marche arrière ou partir d'un radical pour aller à un anneau. Du coup, ça rejoint aussi un débat plus global. Donc je pense qu'à mon échelle en tout cas, c'est assez difficile de trouver en fait, de donner une réponse là maintenant.
Merci beaucoup. Loïc, je voulais savoir par rapport au recyclage, est-ce que, imaginons qu'on fasse abstraction des considérations économiques, est-ce que tu penses que c'est techniquement possible, à partir de ce que tu as lu, de bien recycler des puces aussi complexes que des processeurs, des cartes graphiques, toutes les choses qui composent un peu nos ordinateurs, nos smartphones?
Globalement, c'est que mon avis, mais je pense qu'il y a des choses qui vont être vraiment difficilement recyclables. Ne serait-ce que juste par tous les procédés qu'on a besoin pour extraire les choses majoritaires qu'on veut récupérer. Il y a d'autres parties qui vont être laissées, pas à l'abandon, mais on doit faire des choix. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment tout récupérer, même si on avait tout l'argent qu'il fallait. Je pense que technologiquement, on n'est pas encore assez... C'est que mon avis, mais technologiquement, on n'est pas encore assez puissant, on va dire, ou en tout cas développé là-dessus pour pouvoir tout récupérer.
Je peux aussi rajouter quelque chose concernant les métaux rares qu'on a dans nos appareils électroniques. En fait, ils sont utilisés en très 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 petite quantité par rapport à l'ensemble. Je peux prendre par exemple l'exemple d'un smartphone. On a à peu près de 0,5 à 1 gramme de métaux rares qui sont utilisés dans ces appareils. Et donc justement, pour pouvoir les recycler, c'est juste que le processus d'extraction, c'est juste 0,5 gramme dans un téléphone qui quand même a beaucoup beaucoup de matériaux, et surtout le processus sera extrêmement cher et donc peu rentable. Et donc là encore, on se confronte au mur de la rentabilité et de l'économie à l'échelle de chaque pays.
Mais du coup, de ce que vous dites, j'ai le sentiment que si on voulait faire quelque chose pour limiter l'extractivisme et tout, avec des ressources qui sont quand même finies, même si j'ai pas les chiffres en tête, il faudrait faire juste des appareils qui durent très longtemps, quoi. On ne peut pas juste se baser sur le recyclage pour dire on va recycler, c'est bon. À minima, il faudra des appareils qu'on n'ait pas besoin de recycler parce qu'ils durent longtemps. Je ne sais pas si...
Ou sinon, juste améliorer le cycle recyclage. Je veux dire, on peut aussi augmenter toutes nos capacités là-dessus et être capable de recycler. Je dis que pour l'instant, pour moi, ce n'est pas encore optimal. Mais si on travaille là-dessus ou quoi, ça peut être une solution.
Ok, merci. Et enfin, Mathis, je voulais savoir, est-ce que, à ta connaissance, dans ce que tu as lu, c'est quoi les freins, les principaux freins à l'adoption des low-tech?
Premièrement, je dirais que la première raison qui nous apparaît, c'est l'attrait que la population a pour tout ce qui est high-tech, c'est-à-dire l'optimisation dans tout ce qu'on fait. Qui permettent de trouver des solutions rapides à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Alors après, on a le droit de se poser la question si c'est dans la nature humaine de chercher tout le temps à optimiser ce qu'on fait, ou si on a été un petit peu conditionné au fait de toujours vouloir innover par de l'high-tech pour trouver des solutions et donc optimiser. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Après, un autre frein, en tous les cas, qu'il y a actuellement et donc qui freine le low-tech, c'est tout simplement les incitations économiques et politiques des gouvernements qui encouragent, de par les subventions, beaucoup plus les entreprises qui innovent dans le high-tech que les entreprises qui cherchent à trouver des solutions low-tech pour résoudre des problèmes. Et donc forcément, c'est cette grosse différence de subventions fait que ça encourage beaucoup plus les entrepreneurs à chercher des solutions high-tech pour résoudre des problèmes.
Ok, et ben voilà qui va clore notre émission. On va reprendre dans 15-20 minutes. Attendons, merci beaucoup à vous cinq pour votre travail et votre restitution. Et à bientôt.